auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui lundi 25 août, la première de la saison 2 d'I Love Mes Cheveux. Une émission diffusée depuis janvier, deux ou trois lundis par mois, de 9h30 à 11h en direct et évidemment en podcast. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal et à mes côtés, mon invité aujourd'hui, Priscille Attoy. Priscille, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors comme Priscille est une collègue et comme on travaille régulièrement ensemble, on va se tutoyer au cours de cette émission. D'autant plus que Priscille est déjà venue à ce micro sans parler de ses autres passages sur l'antenne de Radio Campus Tours. Et donc Priscille, tu es la deuxième invitée à revenir au micro d'I Love Mes Cheveux. Je suis très heureux que ce soit toi qui ouvre le bal de cette saison 2. Merci à toi.
Merci à toi Guillaume pour l'invitation.
Mais de rien. Je clôt cette introduction en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié ILMC 2025, ILMC comme I Love Mes Cheveux, ILMC 2025. On peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts. On peut même commenter en direct sous la dernière publication, celle avec le nom de l'invité. Posez vos questions, on essaiera de garder un œil sur l'Insta, d'autant que c'est encore la période de vacances dans le studio de Radio Campus. J'ai retrouvé, je ne sais pas, quelques boutons pas exactement au bon niveau. Donc, j'espère qu'on diffuse bien. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des personnes outside qui écoutent l'émission en direct, n'hésitez pas à nous dire c'est bon, c'est pas bon. Voilà, parce que je suis pas trop sûr de ce qui va se passer. Ok. Et pour cette première de la saison 2, je diffuse quasi en intégralité, c'est pas souvent, la chanson qui me sert de générique de début, Shanti de Julien Jacob. Et Julien Jacob, c'est un chanteur que j'aime énormément, que je suis depuis 25 ans, et qui chante dans une langue inventée. Et on commence par la rubrique Le mot du jour, histoire de ne pas perdre les bonnes habitudes. Et le mot du jour, c'est un mot difficile à traduire, qui n'a pas d'équivalent évident dans la plupart des autres langues. Et le 10 mars, lors de ta précédente participation à I Love Mes Cheveux, Priscille, j'avais choisi, je vais pas te quizer parce que si tu as un trou, tu vas être gêné, j'avais choisi le mot safe, car ça bouclait bien avec le thème du jour, qui est ta spécialité de recherche, l'insécurité linguistique. Alors aujourd'hui, donc avant qu'on entre dans notre entretien autour du sujet du jour, la glottophobie. Je vais tout d'abord vous signaler l'existence et signaler à toutes les auditeurs, auditrices, l'existence d'un magnifique dossier sur les langues disparues dans Courrier International. Donc n'hésitez pas, après tout, Radio Campus est un média, donc on parle des autres médias aussi. Et pour tenter de coller au titre de la rubrique, voici trois mots que vous ne connaissez pas. Donc ce sont les mots du jour tirés d'un dictionnaire de langue anglaise intitulé « The Meaning of Life ». Et dans ce dictionnaire, publié en 1983, John Lloyd et Douglas Adams ont choisi un certain nombre de toponymes, de noms de lieux, surtout britanniques, pour en faire des noms communs. Alors c'est un livre humoristique, c'est un dictionnaire à prétention humoristique, mais ce qui m'intéresse en fait, c'est, outre le fait de vous faire rire au début de l'émission, je l'espère, et je vais vous citer ces trois mots, c'est le fait que le livre fixe de fait, pour être plus sérieux et parler en linguistique, il fixe des signifiants sur des référents qui n'en avaient pas. Alors je pense que ça va mieux passer avec des exemples. Je vais citer en anglais et traduire. C'est ma propre traduction. Drebley, name for a shop which is supposed to be witty but is in fact wearisome. For instance, the Frog Exchange, heir apparent. Et donc Drebley, qui est le nom d'une commune en Angleterre, je crois, enfin quelque part au Royaume-Uni, les auteurs l'ont défini comme un nom commun, nom de magasin censément drôle, mais en fait super relou, comme Diminutif ou la Tour de Pids. Et j'ai pris des exemples qui existent vraiment. Je pense que Diminutif, tout le monde a rencontré des salons de coiffure qui avaient ce genre de nom. Et la Tour de Pids, c'était un restaurant à Tournor, dans les années 2000. Voilà, donc la Tour de Pids, pizza évidemment. Moffat, autre terme tiré de ce dictionnaire. Tailoring term, that part of your coat which is designed to be sat on by the person next to you on the bus. Je pense que c'est une expérience dans laquelle la plupart des gens se reconnaîtront. Moffat, terme de couture qui désigne la partie de votre manteau qui a pour but spécifique que votre voisin ou voisine de bus s'assoie dessus. Alors effectivement, bon, ça prête à sourire, mais ce qui est drôle, c'est que de fait, il n'y a pas de mot pour Moffat, et donc ça veut dire que on pourrait tout à fait se mettre à utiliser ce mot, puisque le dictionnaire fixe un signifiant là où il n'y en avait pas. Et dernier exemple, Ozark, j'aime bien celui-là, on a tous connu des gens comme ça, je crois qu'on connaît tous des gens comme ça. One who offers to help just after all the work has been done. Quelqu'un qui propose son aide une fois que tout le monde a fini le travail, une fois que les autres ont fini le travail. Alors je connais ce livre depuis 20 ans, The Meaning of Life, et j'avoue que je me suis mis à utiliser, même en français, certains des vocables de ce dictionnaire, comme Goosenark, Strout, Dreblay, les personnes qui me côtoient le savent. Et d'ailleurs, sans être un Dreblay, le nom de la boutique de coiffure qui donne son nom à cette émission de radio, I Love Mes Cheveux, rappelle qu'il y a un tropisme linguistique particulièrement marqué du côté des salons de coiffure. Peut-être d'ailleurs que dans une prochaine émission, on évoquera cela avec un collègue d'espagnol retraité dont je n'ai plus de nouvelles depuis juin, mais qui m'avait promis une émission à suivre. Voilà, c'était la rubrique Le Mot du Jour et j'ai fini mes élucubrations linguistiques autour de mots inventés, de noms communs inventés, et en vous incitant éventuellement vous-même à vous approprier certains de ces signifiants. Par exemple, quand vous verrez un nom de magasin avec un jeu de mots dedans, c'est un Dreblay. Voilà, on peut utiliser le mot Dreblay. Moi, je sais que je l'utilise. Et nous venons tout de même, elle patiente gentiment derrière le micro, à la discussion avec notre invitée, donc Priscille Attoy. Je te représente brièvement, docteur en sociolinguistique et didactique des langues, membre du laboratoire d'INADIV de l'Université de Tours et associé au laboratoire anthropologie, archéologie et biologie de l'Université Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay. On voit pourquoi je me prends des notes écrites, contrairement à quand je fais cours, parce que sinon je risque d'en oublier. Et tes travaux de recherche portent sur la diversité linguistique, l'équité, la réflexivité, l'interculturalité et aussi toutes les pluralités dans la zone île Maurice, océan Indien, les rapports de pouvoir et de domination et les discriminations linguistiques et culturelles. J'ai oublié quelques-uns de tes axes de spécialité, mais la raison pour laquelle on est très heureux de te faire revenir à Radio Campus aujourd'hui, c'est par rapport à cette question des discriminations linguistiques et culturelles, puisqu'on va parler aujourd'hui de glottophobie. Je disais le 10 mars dernier, quand tu es venu déjà à ce micro, qu'on pourrait facilement enregistrer 10 émissions avec toi, une toutes les 4 ou 5 mois, eh bien la prophétie se réalise, te revoici parmi nous. Alors Priscille, donc la glottophobie, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais aussi ça c'était pas tout à fait prévu, c'est pour ça que j'improvise, mais je voulais aussi rappeler, avant qu'on passe vraiment au vif du sujet, dire que j'ai sous les yeux un album jeunesse, que tu as coécrit récemment avec Amarnath Hossani, et illustré par Cathy Laguette-Labour. Ça s'appelle La Belle au bois volant, et c'est aux éditions de l'Océan Indien. Alors, est-ce que tu veux nous dire deux mots de ce livre, ce qu'il raconte, à quel public il se destine, où on peut le trouver à l'île Maurice, parce que je pense que c'est un éditeur mauricien, où on peut le trouver en France, s'il y a des endroits où il est déposé. Voilà.
Alors, merci Guillaume. Alors, le livre, il est disponible uniquement à l'île Maurice en ce moment. Il a été publié aux éditions de l'Océan Indien. Il a été coécrit, donc, comme tu l'as très bien précisé, avec Amarnath Hossani, qui est un très bon ami également, qui m'a d'ailleurs proposé, j'ai eu ce privilège, qu'il me propose qu'on coécrive ce livre ensemble, puisque je l'avais rencontré lorsque je travaillais à l'Institut français de Maurice. On s'était rendu compte qu'on avait un petit peu les mêmes valeurs, qu'on s'entendait très bien sur pas mal de thématiques. Et La Belle au bois volant met en scène des thématiques de mes sujets de recherche, mais abordés de manière, on va dire, un peu plus implicite pour un jeune public, pour donc déconstruction des normes, etc. Et tu me diras ce que t'en penses lorsque tu l'auras lu.
Priscille me l'a gentiment offert et apporté ce matin parce que je ne le connaissais pas encore. J'avais vu j'avais vu quelques photos, j'avais vu que c'était très beau, mais je n'ai pas vu le texte. J'avais vu des images, certaines images, mais je n'avais pas vu le texte. Donc, eh bien, merci beaucoup à toi. Et effectivement, je te dirai, on en reparlera. Très bien. Alors, je signale juste un petit truc technique que, visiblement, je ne sais pas comment. J'ai beau pousser au maximum mon micro. Visiblement, Il est beaucoup plus faible que celui de notre invité. Bon, c'est, j'espère que ce n'est pas trop insupportable techniquement pour les auditeurs et les auditrices. Alors, par ailleurs, tu as fondé il y a quelques années un cabinet de conseil. Est-ce que tu veux nous en dire deux, trois mots ?
Paringalang, donc le cabinet de conseil et de formation. Paringalang pour parité, interculturalité, égalité par la langue. Donc c'est un cabinet de conseil que j'ai fondé, que je dirige. C'est un cabinet qui intervient pour sensibiliser en entreprise, comme ça peut aussi être en entreprise ou dans des établissements scolaires, des établissements d'enseignement supérieur, sur des discriminations linguistiques et culturelles qui peuvent porter atteinte aux salariés en entreprise, puisque souvent on ne le sait pas, enfin, on va parler de glottophobie aujourd'hui, mais voilà, la glottophobie en entreprise, elle existe et elle peut avoir des conséquences sur la santé mentale des salariés.
Ok, très bien. Alors c'est juste que j'ai un petit SMS qui me dit que le déséquilibre technique entre les micros, ça va. Donc merci, je remercie ma sœur en l'occurrence qui me signale ça. Voilà, on est en famille. Donc voilà, ça me rassure, on peut continuer l'émission, visiblement. On nous entend à l'extérieur, donc voilà. Donc merci beaucoup. Et donc ce cabinet de conseil, ça veut dire que tu peux intervenir tant auprès des entreprises qu'auprès des collectivités publiques, de l'éducation nationale, des établissements scolaires. Et est-ce que dans le cadre justement de ce cabinet de conseil, tu travailles aussi avec des... Enfin, est-ce que tu fais intervenir des spécialistes des questions médicales, puisque tu disais qu'il y a, évidemment toute la phase, le pan linguistique au sens très large pour lequel évidemment tu es l'experte. Mais pour ce qui est de la santé mentale, est-ce que tu travailles avec des personnes qui sont spécialistes de ces questions, qui sont capables d'évaluer l'impact ?
Alors, pour l'instant, pas encore. C'est pas encore prévu, mais dans le cadre du laboratoire, donc du lab à Paris-Saclay, dont je fais partie, où nous avons travaillé, nous avons publié des articles en lien avec la santé mentale des aidants, des soignants, du personnel médical. Donc en lien avec les discriminations qu'ils ou qu'elles peuvent subir dans le milieu hospitalier. D'accord. Donc on a recueilli des témoignages justement de ces personnes face à ces... Enfin, donc comme conséquence de ces discriminations linguistiques et culturelles.
Oui, parce qu'on va... c'est toujours comme ça quand on a une véritable conversation, on met un peu la charrue avant les bœufs, donc on est déjà en train d'entrer dans le vif du sujet, mais c'est très bien. Mais les discriminations linguistiques, souvent, on va y revenir. Hein. Je rassure nos auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas bien ces thématiques, on va essayer d'être plus pédagogique très bientôt, mais j'espère qu'on l'est déjà un peu. Les discriminations linguistiques, souvent, elles recoupent un certain nombre d'autres discriminations, ce qui veut dire que, par exemple, dans le domaine hospitalier, on sait bien qu'il y a des inégalités liées au genre, des inégalités liées à la race, et qui peuvent être en fait encore aggravées par les discriminations linguistiques. Ou alors parfois les discriminations linguistiques, c'est la face visible de l'iceberg, parce qu'on n'ose pas être ouvertement raciste avec quelqu'un, mais en revanche, on va peut-être se permettre d'autres formes de racisme. Il y a le racisme capillaire, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est une forme de racisme très très spécifique, dont sont victimes beaucoup d'afro-descendantes et de personnes racisées. Mais il y a aussi les discriminations linguistiques. Donc ça, c'est aussi une manière de lancer des signaux d'alerte, c'est-à-dire on se rend compte, est-ce que tu dirais ça, que finalement on peut faire prendre conscience à une collectivité ou à un ensemble d'individus qu'il y a des discriminations parce que justement il y a ça qui affleure, c'est-à-dire des moqueries, des...
Oui, tout à fait, puisque on se rend compte, je me suis rendu compte il y a quelques années maintenant, depuis que j'ai préparé ma thèse, lorsque je disais que je travaillais sur l'insécurité linguistique et que j'essayais d'expliquer ce que c'était, etc., l'insécurité linguistique, les discriminations linguistiques. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, les personnes me regardaient bizarrement et me disaient « Ah d'accord, c'est une discrimination que de se moquer de l'accent. » D'accord, je ne savais pas. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très méconnu, mis à part bien sûr le fait qu'on soit dans le milieu académique, universitaire, bien sûr, c'est archi connu, mais lorsqu'on sort lorsqu'on va vers le grand public, c'est une notion qui est abstraite. Et donc, ma volonté, elle est partie de là, de sensibiliser, de faire prendre conscience aux gens que c'est bien une discrimination, la discrimination linguistique. Donc, enfin, pour ne pas utiliser ce terme un peu plus barbare de glottophobie, mais finalement, la glottophobie, c'est de la discrimination linguistique. Et ça me fait penser, puisque on parlait du milieu hospitalier, on évoque par exemple le syndrome méditerranéen. Mmh. Donc lorsqu'on a un faciès du type méditerranéen, on va pas, ou avec un accent justement, on va pas forcément être pris au sérieux. Mmh. Là, j'ai pas les noms des victimes, parce que c'était passé.
Il y a une africaine,
oui.
Je crois.
Deux, trois, oui.
Au moins qui est morte, oui. Parce qu'il y a eu une prise en charge, oui, inégale. Alors, c'est vrai que je n'ai pas les références non plus, mais je pense que ça se trouve assez facilement. Oui. On essaiera de retrouver les références précises. Ouais, pour les mettre sur la page de l'émission, qui effectivement est morte parce que la personne qui la prenait en charge au téléphone, au SAMU, n'a pas pris au sérieux sa douleur. Et très probablement parce qu'effectivement, elle avait un accent extrêmement marqué, mmh, du point de vue de la personne qui la prenait en charge au téléphone. Donc, et puis, bon, même la question de la... Il y a des mythes qui, je crois, sont encore enseignés. Mmh. Je crois qu'il y a un certain nombre de... Alors, on va plus être sur la discrimination linguistique, mais je crois, pour poursuivre là-dessus, je crois que les... Je ne sais plus si c'est le syndrome méditerranéen ou autre chose, mais il y a le fait que les personnes, notamment afrodescendantes, auraient une résistance à la douleur plus importante. Je crois que c'est encore une espèce de fable totale qui est encore enseignée, je crois, dans un certain nombre de facs de médecine. Je crois, je veux pas incriminer sans savoir, je sais pas, peut-être qu'ils sont revenus dessus. Et donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des praticiens qui, eux, le croient encore.
Oui, c'est des stéréotypes, justement, qui perdurent, en effet. Et j'ai d'ailleurs écrit un article, là, j'ai plus le titre en tête, parce que là, je suis pas venue avec le titre en tête, mais c'était, je crois que c'était Silent Ethnicization, mm-hmm, donc
l'ethnicisation silencieuse, c'est-à-dire la façon dont on réussit à faire des discriminations sur les origines, voilà, sur l'apparence, etc.
C'est ça. Mm-hmm.
À partir en fait de la langue, mais on est totalement dans le vif du sujet. Mm-hmm. On va y venir parce que tu, mm-hmm, disais.
Et je te donnerai les références, la référence vers mon article après.
Ouais. Oui. Alors je continue à utiliser scandaleusement et en la remerciant beaucoup les SMS que m'envoie ma sœur qui je pense soit s'en souvenait, soit est allé googler, et qui cite notamment le cas de Naomi Musenga en 2017. C'est à ça que tu pensais,
ça, c'est ça, exactement.
Donc Naomi Musenga, qui donc est morte, moi j'ai pas Google sous les yeux, mais qui ferait partie de ces victimes, des victimes pour le coup mortes, du syndrome méditerranéen, en partie liées à des questions de discrimination liées à l'accent. Mm. Ok, eh bien donc on va en venir donc à cette fameuse glottophobie. Et alors le terme n'est pas présent dans les 755 pages de ta thèse soutenue en 2021. Tu en parlais, tu disais que tu as fait cette thèse aussi pour rendre mieux visible ces concepts de discrimination linguistique. Et le titre de ta thèse, c'était l'insécurité. C'est toujours d'ailleurs, c'est un ouvrage permanent. Mais c'est l'insécurité linguistique en français en milieu plurilingue, Île Maurice, mobilité sociale et conflit de légitimité. Alors le terme glottophobie n'est pas présent, sauf si je me suis trompé en cherchant. Donc on va peut-être d'abord rappeler, parce que c'était ce dont on a parlé lors de la précédente émission, mais je pense que c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel, et puis il y a peut-être des auditeurs qui n'ont pas écouté l'émission du 10 mars, ce qu'est l'insécurité linguistique. Alors je vais te demander de résumer en deux minutes ce que tu as mis X années et 750 pages à écrire, mais l'insécurité, et ensuite on en viendra à la glottophobie.
Alors, on ne peut parler de glottophobie sans parler d'insécurité linguistique et inversement. L'insécurité linguistique, c'est ce sentiment, je dirais que c'est ce sentiment que l'on ressent ce que ressent le locuteur lorsqu'il pense que sa manière de s'exprimer n'est pas conforme à la norme qui est attendue. L'insécurité linguistique, elle est souvent ressentie, je dirais, en milieu formel et moins en milieu informel. Il s'agit surtout d'enjeux. Par exemple, on ressentirait de l'insécurité linguistique dans le monde professionnel, hein, parce que il faut être pris au sérieux, il faut donc avoir un accent normé, alors que dans un cadre informel, plutôt amical, on se connaît entre nous, il n'y a pas forcément d'enjeu, même si la personne ne parle pas de la manière qui est attendue, ce sont ses pairs, PAIRS, qui la connaissent ou sont ses amis qui le connaissent, et qui ne lui en tiennent pas rigueur. Donc, il n'y a pas forcément d'insécurité linguistique. Donc, pour faire très simple, je dirais que voilà, c'est ce sentiment de ne pas se sentir légitime dans un certain endroit et donc d'adopter les codes du langage, tout simplement.
Alors, je vais inventer sur le coup un exemple, une anecdote fictionnelle, mais qui, je pense, ne doit pas être si fictionnelle que ça. Imaginons quelqu'un qui arrive dans une partie... quelqu'un de francophone, hein, dont la langue maternelle serait le français, mais qui arrive dans un coin de la France, à la boulangerie, a envie d'acheter quelque chose, il entre dans la boulangerie, il voit une pâtisserie qui lui fait envie, ça s'appelle pain au raisin, mais cette personne sait que pour telle ou telle raison, la manière dont elle prononce pain au raisin fait qu'on lui répète, on lui demande de répéter trois fois. Imaginons que cette personne, du coup, décide de prendre un croissant parce qu'elle sait qu'on comprendra croissant et pas pain au raisin. Alors, tu vas me dire, on peut tout remontrer, mais c'est un autre facteur. C'est la personne qui montre est quelqu'un qui admet qu'elle ne parle pas la langue. Est-ce que là, on est dans un cadre formel ou informel pour toi? Parce que c'est entre les deux quand même. Pourquoi une personne fait ça? Pourquoi une personne se dit, j'ai envie d'un pain au raisin, mais je vais prendre autre chose parce que j'ai peur que... j'ai pas envie qu'on me fasse répéter, j'ai pas envie qu'on me regarde de travers, ou je ne sais pas.
Ça me fait penser, là, ce que tu évoques, là, Guillaume, ça me fait penser à un débat que j'ai souvent eu en région bordelaise, avec le fameux pain au chocolat et la chocolatine. Et les personnes qui disaient, non, on dit bien chocolatine, je trouvais qu'elles n'étaient pas en insécurité linguistique. Il n'y a pas forcément d'enjeu, c'est dans un cadre amical, c'était vraiment beaucoup plus pour rigoler et débattre est-ce que c'est pain au chocolat ou chocolatine. Je n'ai pas senti d'insécurité linguistique dans aucune des deux parties. Je dirais donc que l'insécurité linguistique, elle se vit ou elle est vécue lorsqu'il y a des enjeux. Vraiment, je pense que c'est cela. D'ailleurs, on en avait parlé avec mon directeur de thèse, Didier de Robillard. Il disait qu'il y a insécurité lorsqu'il y a des enjeux, lorsqu'il est question de légitimité. On doit se rendre légitime, on doit se rendre crédible vis-à-vis de quelqu'un.
D'accord, il faut qu'il y ait une espèce d'instance tierce. En fait, ça rejoint presque la notion freudienne du surmoi. C'est-à-dire, en fait, il y a une espèce de légitimation fantasmée ou pas fantasmée du tout qui est en jeu. D'accord, très bien, c'est cool. Et donc, en l'occurrence, ce n'est pas du tout cool quand ça se produit, mais c'est vraiment un sujet qu'il est vraiment important de mettre en avant et de discuter. Alors, tu disais que au début de tes recherches, on te disait souvent, ça existe, ça. Alors, le livre de Philippe Blanchet qui a mis un petit peu la question sur la table, c'est sur le devant de la scène, alors à une échelle modeste, mais c'est, il date, je suis en train de chercher, de 2016, j'allais dire 2015. Donc, c'est-à-dire à peu ou prou le moment où tu as commencé ta thèse, je pense.
Un petit peu après.
Et donc, il s'appelle, je donne la référence des fois que j'oublie plus tard, emporté par l'élan, discrimination au pluriel, combattre la glottophobie. Et ça a été publié aux éditions textuelles, et ça se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques, EBU, et puis à la BU de Tours notamment. Et bien entendu, je pense qu'il est encore disponible et commandable en librairie. Alors ce terme, justement, on va en venir à ça, la glottophobie, il est forgé. Alors tu disais tout à l'heure, terme un peu barbare, c'est-à-dire difficile à comprendre, parce que déjà il y a glotte qui n'est pas linguo. Si c'était fondé sur langue ou sur linguo, peut-être que les gens comprendraient mieux. Alors, il est forgé sur le modèle de xénophobie ou d'homophobie. Ça ne veut pas dire qu'on a la phobie des étrangers ou des homosexuels ou de la langue, mais ça veut dire qu'on discrimine envers... Et c'est ça, en fait, qui rend les composés en phobie un petit peu difficile à expliquer. C'est que l'utilisation de phobie, elle ne correspond pas au mot phobie dans son sens plus usuel. Donc, ça désigne le fait de pratiquer toute forme de discrimination envers une personne en raison de la langue qu'elle parle ou de la façon dont elle parle une certaine langue. Et le mot se trouve dans le Larousse. Donc, tu vois, quand tu dis, je pense que ce terme-là, moi, alors, je vais pas faire d'autobiographie, mais la glottophobie, et c'est pas pour ça que le sujet m'intéresse, parce que j'essaie d'être attentif à ce qui ne me concerne pas, mais la glottophobie, c'est à peu près la seule discrimination dont j'ai pu être très légèrement, mais de manière assez continuelle, régulière et, on va dire, superficielle, donc sans gravité, mais victime. C'est-à-dire que ça a été mon... Moi qui suis, je dis souvent à mes étudiants, le prototype du mec cis blanc de plus de 50 ans, donc vraiment le centre du patriarcat et donc avec très peu de discrimination a priori. Celle-là, je l'ai un peu connue. Et donc, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à entendre parler de ça, comme tes interlocuteurs au début de ta thèse, je me suis dit, c'était donc ça. Jusque-là, j'aurais dit, ah bon, on se moque de moi à cause de mon accent, ou les gens me font répéter à cause de mon accent. Et je n'aurais pas osé mettre ça sur le même plan que la xénophobie, l'homophobie. Et d'ailleurs, je ne la mets pas à mon plan personnel sur le même niveau, puisque contrairement à des personnes victimes d'agressions homophobes, par exemple, ou racistes, ma vie n'a jamais été en danger. Alors, tu as bien fait de le rappeler, la vie de certaines personnes peut être en danger, lien avec les discriminations linguistiques. Et donc, le Larousse le définit, donc je vais citer la définition du Larousse, attitude taquine, moqueuse ou franchement méprisante, voire discriminatoire. Donc on voit que le Larousse essaie ils ont bien travaillé, je trouve, parce qu'ils essaient de montrer la gradation, c'est-à-dire taquine, bon bah c'est entre super potes et on va pas mal le prendre, mais ça va jusqu'à franchement méprisante, voire discriminatoire, envers les personnes qui emploient une langue considérée comme inférieure ou dont la manière de parler, accent, vocabulaire, etc., s'écarte d'une norme présupposée. Et le Larousse précise, on doit ce terme au linguiste français Philippe Blanchet. Alors, je ne sais pas si c'est entièrement vrai, si c'est lui qui a forgé le terme ou pas, je n'ai pas revérifié. Mais bon, le Larousse a dû vérifier, enfin, les auteurs du Larousse ont dû vérifier. Alors, ce que je trouve très bien dans la définition, c'est qu'il distingue bien le fait que ça peut être en fonction de la langue qu'on parle ou de la manière dont on parle une langue. Et donc, on en revient à ce que je disais sur pain en raisin, c'est-à-dire tout le monde est censé parler français, c'est la langue maternelle de tous les interlocuteurs. Mais il y en a un qui va prononcer tel mot un peu différemment et se sentir illégitime à cause de ça. Et ils insistent aussi sur le vocabulaire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. T'en parlais avec la chocolatine. Ça peut aussi être lié à des questions de vocabulaire. Alors, on va reparler de Philippe Blanchet, dont j'ai relu le livre pour préparer cette émission. Mais peux-tu réagir à ces définitions ? C'est-à-dire taquine, moqueuse, franchement méprisante, voire discriminatoire. Et sur la question, finalement, sur les trois aspects. Une autre langue, un autre accent, un autre vocabulaire.
Alors oui, donc en effet, le terme, il a été forgé, je le confirme, c'est un néologisme qui a été forgé par Philippe Blanchet. Et je tiens à préciser que c'est un terme, c'est une notion, c'est un concept qui est très utilisé en sociolinguistique française, francophone, beaucoup moins dans le domaine anglophone. Peut-être qu'ils vont simplement parler de language discrimination.
Ouais, ils ont tendance à se méfier des termes un peu hellénistiques, entre guillemets barbares. C'est amusant que tu aies dit barbare, parce que c'est les termes grecs qui nous paraissent barbares, alors que le mot barbare a été inventé par les Grecs, mais bon, pour parler des autres. Mais bon, c'est pas...
Oui, mais barbare entre guillemets, bien sûr, mais c'est vrai que ça fait très scientifique. Donc, et Philippe Blanchet, justement, il a bien précisé lorsqu'il a forgé ce terme qu'il voulait parler de glottophobie. Puisque, on l'a bien dit, la glottophobie, elle désigne la discrimination linguistique. Mais en parlant de glottophobie, pour lui, c'était montrer que ça avait en effet, ça agissait sur les personnes. Phobie, en tant que, comme tu l'as très bien souligné, donc rejet de l'autre, avoir la peur de l'autre. La phobie, donc, c'est avoir la peur de l'autre et le rejet de l'autre. Et il a bien expliqué qu'il voulait que ça se calque, comme tu l'as souligné aussi, sur xénophobie. Pour montrer que c'est une discrimination que subissent les personnes et non pas les langues. Puisque lorsqu'on parle de discrimination linguistique, on se dit « bon, c'est une discrimination sur les langues ». Alors que les langues, elles sont parlées par les personnes. Les langues, elles existent par des locuteurs, elles sont vivantes, ce sont des langues vivantes. Les langues sont vivantes et bien sûr, il y a des langues mortes. Mais ce sont des langues vivantes parlées par des personnes vivantes. Et donc, lorsqu'on discrimine certaines langues, ce sont ces locuteurs qu'on discrimine. D'où ce terme, il a vraiment précisé cela, pour montrer que c'est une discrimination sur l'être humain et non pas sur les langues elles-mêmes. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est une discrimination par rapport à la langue, à des langues parfois considérées comme minorées ou minorisées. Ça peut être le créole, le wolof, le tagalof, etc. Des langues comme l'arabe, qui sont quand même parlées à l'international, mais qui sont souvent stigmatisées. Ça peut être ce qu'on appelle donc des langues régionales, sur le vocabulaire aussi, sur des formules, des tournures de phrases sur lesquelles on va se moquer. Et aussi, bien sûr, de l'accent. Ce n'est pas qu'une discrimination par l'accent. Je pense que dans les médias, lorsqu'on parlait de glottophobie, on a souvent résumé cela à l'accent. Là, je pense, par exemple, on en a parlé juste avant, de l'exemple de Mélenchon qui s'adressait à la journaliste qui avait un accent du Sud. Et souvent, il y a eu quelques exemples comme ça qui ont fait que les médias ont un peu simplifié le terme de glottophobie et l'ont réduit à cette discrimination des accents. Mais ce n'est pas, je le précise, qu'une discrimination sur des accents. C'est une discrimination sur la manière de s'exprimer, sur la façon de communiquer, sur les langues minorées. On va, par exemple, privilégier certaines langues perçues comme privilégiées, entre guillemets, par rapport à d'autres qui sont perçues comme plus honteuses et qu'il faut parler qu'à la maison, la langue du foyer.
Alors, je suis très heureux que tu précises les choses comme ça, toujours avec une très grande clarté. Et en fait, ce que tu dis ouvre plein d'univers différents. Et là où je suis très content, c'est qu'effectivement, je ne voulais pas que cette émission se focalise sur la question des accents. Parce que sans avoir ton expertise et sans avoir entendu et aussi... parce que moi, quand j'entends des trucs sur la glottophobie, c'est pas mon job. Donc toi, aussitôt, tu fais toutes les connexions en quelque sorte. Mais c'est aussi mon sentiment qui est qu'on se focalise un peu sur les accents, ce qui était mon cas aussi au début, parce que la glottophobie dont moi j'ai pu être un peu victime superficiellement, elle était liée à mon accent du Sud-Ouest qui a un petit peu disparu, qui s'est un peu effacé, mais qui était beaucoup plus marqué quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai, tu citais le cas de Mélenchon. Alors c'est qu'il y a aussi des cas. Le cas de Mélenchon se moquant de l'accent d'une journaliste avec un accent du Sud-Est, en plus, je crois, c'était particulièrement marquant parce que c'était de toute évidence, parce que la question l'embarrassait. Et c'était, en plus, je crois, au moment où il cherchait à se faire élire député à Marseille, en plus. Donc, c'est ce qui était quand même le parachutage ultime. Donc, il y a vraiment quelque chose là de vraiment très, très problématique. Et je voulais aussi revenir sur ce que tu disais sur la glottophobie, qui n'est pas le fait de critiquer ou de se moquer d'une langue, mais de faire subir une discrimination à des personnes en raison de cette langue. On a l'espèce de même double sens qui donne lieu à des justifications plus ou moins de bonne foi sur l'islamophobie. C'est-à-dire quand on lit les gens qui disent « Ah mais si, on a le droit d'être islamophobe, de critiquer l'islam, etc. » Non, l'islamophobie, c'est le fait de faire subir des discriminations à des personnes en raison du fait de leur religion, en l'occurrence l'islam. Donc ça, voilà, donc c'est il faut sans cesse le rappeler, et merci de l'avoir rappelé, et moi j'enfonce un peu le clou par-dessus, mais voilà. Donc on va parler de tout ça, et aussi de la dimension politique, ce que tu disais sur l'arabe et l'anglais, typiquement, et je pense qu'il faudrait qu'on reparle de ça après la première pause musicale. Il y a le fait que les personnes ont intériorisé la discrimination, c'est-à-dire que quand je discute, moi... J'enseigne à la fac, alors dans le département d'anglais, donc c'est-à-dire une langue, la super langue du super pouvoir majoritaire, minor, qui écrase toutes les autres, etc. Et quand on parle d'avenir professionnel avec un certain nombre d'étudiants, d'étudiantes, et qu'on parle des métiers de la traduction, par exemple, je leur dis toujours, mais est-ce que vous avez une langue maternelle ou une langue que vous maîtrisez et qui se situe en dehors du cadre scolaire? Et il y a toujours des étudiants et des étudiantes qui, à 18, 20, 22 ans, découvrent que oui, le portugais, je ne prends pas que l'arabe, le portugais, l'arabe bien entendu, ou le wolof, sont des atouts qu'il faut mettre sur un CV en disant « avant même d'avoir fini mes études, je suis capable d'être traducteur trilingue ou quadrilingue parce que j'ai l'anglais et l'espagnol en plus du français. » Et puis, j'ai aussi l'arabe, le portugais ou le wolof dans mon bagage. Donc ça, c'est cette intériorisation, elle est toujours extrêmement difficile à voir chez les autres quand, comme moi, en fait, on a une langue maternelle complètement banale, comme le français, et qu'on n'a pas eu la chance, comme un certain nombre de ces personnes, d'apprendre comme ça, juste en grandissant dans un milieu plurilingue, une langue qui, parce qu'elle est minorée, minorisé, est perçu comme pas du tout un atout ou un avantage. Donc on a aussi cet aspect-là. On va faire une petite pause musicale en diffusant une chanson que tu avais proposée pour la précédente émission et que j'avais pas eu le temps de diffuser, et qui est une chanson que j'aime beaucoup aussi, donc c'était pas du tout pour ça. Il s'agit de « Beds Are Burning » de Midnight Oil. Alors c'est une chanson qui notamment parlait à la fin des années 80 des droits des aborigènes et sur les discriminations aussi, et la possibilité, même si je comprends bien les paroles, je ne suis pas sûr à 100%, mais que les blancs paient des réparations pour le colonialisme et l'expropriation des aborigènes. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette chanson, elle a été écrite avant même que la Cour suprême d'Australie reconnaisse que les aborigènes avaient le droit à étaient les propriétaires ou pouvaient réclamer le droit à la propriété de terre en Australie. Voilà, donc ça c'était pour la petite explication de texte, et peut-être que je me trompe, on ne sait pas trop, on aura éventuellement un débat avec les spécialistes. Beds are burning. Thank you.
wood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while
comme Indeed, on est de retour sur le plateau, dans le studio, qu'est-ce que je raconte ? Dans le studio de Radio Campus Tour 99.5 FM. Et on est avec Priscille Atteuil pour parler de glottophobie. Et donc on a bien dit, on a commencé à dire que la glottophobie, qui est souvent restreinte à la question des accents dans le débat médiatique, et c'est vrai qu'il y a eu de très nombreux articles sur la discrimination à l'embauche liée aux accents. On est revenu et pendant la pause musicale, on a pu vérifier les détails de l'affaire Naomi Moussenga, puisque tu en as parlé. Effectivement, elle est morte à l'hôpital par défaut de prise en charge, puisque l'opératrice du SAMU s'est moquée de son accent et a raccroché. C'était en 2017. Et donc, suite à son décès, il y a eu évidemment tout un, tout un débat lié notamment à la question du syndrome méditerranéen dont tu parlais, voilà, donc Naomi Musenga. Et ça n'est pas la seule, hein, on n'a pas retrouvé, mais il y a eu d'autres victimes, des personnes qui sont mortes à cause de discrimination linguistique. Donc on a bien entendu, on commence à savoir que la discrimination à l'accent peut être autre chose qu'une simple moquerie, confère à la définition du Larousse, mais il y a évidemment d'autres discriminations aussi liées à la langue que l'on parle, au vocabulaire que l'on utilise. Et donc voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit avant la pause musicale.
Alors je pensais peut-être, on a parlé d'insécurité linguistique et de glottophobie, peut-être pour clarifier, je dirais que l'insécurité linguistique, on la subit, on est plus dans une posture passive. Alors que lorsqu'on parle de glottophobie, pour moi, c'est qu'on agit. On est donc plus dans l'action. Qu'on fait en sorte que l'autre, la personne qui est en face de nous, le locuteur qui est en face de nous, se sente mal, se sente inférieur, se sente méprisé. On agit sur cette personne pour qu'elle se sente moquée, stigmatisée, infériorisée, etc. Alors que lorsqu'on parle d'insécurité linguistique, c'est souvent c'est passif. Mmh. On l'a subi, cette insécurité. On essaye de ne pas en parler. On a honte de la manière dont on parle. Et donc, on va se taire. On va se conformer dans son mutisme. On essaye d'être discret. Pour moi, ça, c'est de l'insécurité linguistique. On est insécure, entre guillemets.
Et on n'ose pas prendre la parole.
On n'ose pas prendre la parole, voilà, c'est ça.
C'est des formes d'infériorisation qui poussent au silence, en fait, oui. À choisir le silence.
À être à devenir invisibilisé, mm-hmm. Oui,
et,
tout à fait.
Et c'est vrai que si, sans extrapoler sur l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu là encore la face visible de l'iceberg, parce que dans le milieu professionnel, on a pu être témoin de ça, c'est-à-dire des personnes qui, par abus de pouvoir, en fait, je crois qu'il faut, caractériser ça pour ce que c'est un abus de pouvoir de dire à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord ou qui est en train de, dans une réunion professionnelle, d'avancer une idée qui ne vous arrange pas, de commencer par se moquer de telle tournure syntaxique. Ça sera rarement d'ailleurs sur l'accent. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la discrimination à l'accent, elle a été marquée sur un certain nombre de choses au niveau de l'emploi, mais dans les relations interprofessionnelles entre personnes déjà employées, c'est rarement sur l'accent. C'est plus de la moquerie à la machine à café, qui peut être d'ailleurs très mal vécue par les victimes. Mais dans le contexte professionnel, c'est plus souvent effectivement une moquerie sur le vocabulaire, sur la syntaxe, sur la façon de s'exprimer, et du coup qui met en avant l'insécurité linguistique, ou qui vient évidemment renforcer ou créer l'insécurité linguistique de son interlocuteur ou de son interlocutrice.
Ça peut aussi, je me permets, Guillaume, ça peut aussi être lié à l'accent, même en France.
Oui, oui.
Par exemple, un journaliste qui n'est pas toujours du Sud, par exemple, je pense à un journaliste du Sud ou du Nord, qui n'est pas toujours le bienvenu à Paris parce qu'il a justement un accent.
Il y a eu un cas, alors on va essayer de tenir ce que je disais à la pause musicale, de ne pas tout tirer vers les accents. Mais c'est vrai que moi, l'exemple frappant pour moi, ça a été le cas de Jean-Michel Apathy. Mmh. Et c'était avant, et je me rappelle, j'ai regretté rétrospectivement de ne pas avoir fait des captures d'écran de tous les commentaires Facebook, notamment à l'époque, mais c'était il y a plus de 10 ans déjà. C'était avant la publication du livre de Blanchet, ça c'est sûr, et dans lequel, grosso modo, pour la première fois, un journaliste avec un accent du Sud extrêmement marqué, je veux dire, j'ai le droit de le dire, j'ai un peu le même type d'accent que lui, avec on ne peut pas ne pas savoir qu'il n'a pas un accent du Sud, quoi. Même les gens qui ne savent pas si c'est du Sud-Ouest, du Sud-Est, identifient un accent dit méridional. Et pour la première fois, quelqu'un qui avait cet accent-là parlait à la radio d'autre chose que de rugby ou de cuisine. Et c'était vraiment ça. Et les commentaires Facebook, ça n'était que ça. C'était mais quel est ce guignol ? Il parle comme un clown. Enfin, il y avait vraiment que des expressions comme ça. Donc oui, ces questions de légitimité, elles sont importantes.
Et il en a fait sa marque de fabrique, je dirais.
Alors c'est vrai qu'il n'a pas cherché du tout à le cacher, si tant est qu'on puisse.
Il assume.
Si tant est qu'on puisse. Mais alors j'avais une question aussi par rapport au. Parce que c'est un point, me semble-t-il, Philippe Blanchet n'aborde pas ou ne développe pas. Est-ce que dans ton travail, tu as remarqué, par exemple, que... alors, certaines catégories sociales, oui, ça, j'ai lu ta thèse, mais est-ce que, par exemple, ça recoupe... Et comment, en quelle mesure, ça recoupe, par exemple, les inégalités de genre? C'est-à-dire, en quoi est-ce que, par exemple, des femmes, des personnes non-binaires, des LGBT, etc., sont aussi plus victimes, peut-être, que l'homme cis, blanc, que je suis?
Alors, je t'avoue que je ne me suis pas beaucoup penchée sur la question, mais dans mes études de terrain, j'ai pu constater que c'était beaucoup plus vécu par des femmes, cette insécurité linguistique, alors que les hommes, par exemple, essayaient d'assumer, tout simplement, et même oui, certains hommes d'un certain âge assumaient le...
Oui, parce que, parce que ça vient recouper l'éducation patriarcale qui fait que les garçons sont éduqués à être plus sûrs d'eux et les filles plutôt effacées. Donc ça vient certainement accentuer, sans mauvais jeu de mots, renforcer ces discriminations intériorisées de départ. Moi, c'était aussi mon sentiment. C'est-à-dire, tu sembles dire que sans en avoir fait pour l'instant un objet, je ne suis pas en train de te dicter tes prochains articles, mais sans en avoir fait un objet d'étude à part entière, tu sembles dire que statistiquement, ton sentiment est le même que le mien. C'est-à-dire, c'est plutôt des femmes, et là, pour le coup, Blanchet en parle, plutôt des catégories sociales dites défavorisées, des classes populaires, qui sont persuadées, et qui parfois sont persuadées de ne pas être légitimes, alors que finalement, elles ont rarement été victimes directement en fait, d'actes glottophobes. Et là, on va plutôt du côté de l'insécurité linguistique. C'est intériorisé. Je ne parle pas comme les gens de la télé, donc. Je ne parle pas comme les hommes politiques, donc. Un peu cette question-là. Eh bien, écoute, je vais diffuser on parle des médias, j'ai ouvert l'émission en conseillant la lecture du dossier sur les langues disparues de Courrier International. Eh bien, un autre média, TV5 Monde Info. Je vais vous diffuser et je vais te demander de réagir, alors en sachant que je te prends un peu au dépourvu parce que tu n'as pas encore écouté cet élément-là, une rubrique diffusée le 28 janvier 2020, donc il y a 5 ans et demi, sur TV5 Monde Info, et c'est le billet d'une journaliste, ça s'appelle L'humeur de Linda. Alors la journaliste s'appelle, parce que j'aime pas appeler les gens par leur prénom quand je les connais pas, Linda Giger, et donc elle réagissait à une actualité sur c'est bien expliqué d'ailleurs, je vais arrêter de bafouiller, ça s'appelle Discriminée par l'accent, L'humeur de Linda nous explique la glottophobie.
Voilà Linda, comment allez-vous?
Ça va bien moi-même, merci, et vous?
Parfait.
Ouais. Mohamed, avez-vous déjà entendu parler de ça, vous, la discrimination par l'accent?
Ah, je n'en ai jamais été victime avec mon accent très parisien, mais je sais que ça existe, on en a déjà parlé.
Voilà, c'est quand un employeur refuse un poste à un candidat à cause de son accent. Eh bien, j'ai appris ce week-end que la France pourrait bientôt sanctionner ce type de comportement. Il y a un député de l'Hérault, dans le sud de la France, qui a déposé une proposition de loi.
Il doit avoir un accent du sud, je pense.
Effroyable, épouvantable. Christophe Heuzet, c'est son nom. Christophe Heuzet dit qu'il existe en France une vraie discrimination à l'embauche. Quand on a un accent du sud, de l'est ou des îles, dit-il, il y a des sphères d'expression publique qui se ferment, qui se bouchent. Les médias, les start-up, les grandes entreprises. Il demande que cette discrimination par l'accent soit inscrite dans le code pénal et le code du travail, et que, comme pour les autres discriminations, elle soit passible de 3 ans de prison. Alors attention, son objectif, c'est pas d'envoyer les patrons en tôle, c'est de promouvoir la France des accents. Ah, la première fois que je suis allée à Marseille, peu cher, j'avais l'impression d'être dans un film de Pagnol. L'avenue de la Canebière, la pétanque, les cigales qui chantent, le pastis et... Ah, et cet accent si local. Quand la cagole annonce à son prof qu'elle veut faire journalisme, il lui dit avec ton accent, ma fille, tu pourras faire la météo, mais sûrement pas présenter le journal. Vous voyez? En France, bon, essentiellement à Paris, il faut le dire, l'accent est stigmatisé. Il vient d'où, votre petit accent? Le français de référence, celui qu'on entend à la radio, il n'a pas d'accent. Il vient de Paris. Il vient... historiquement de l'élite intellectuelle parisienne. Donc, Plus ton accent est prononcé, moins t'es crédible, plus t'es stigmatisé. C'est ce qu'on appelle la glottophobie. Parce qu'un accent, c'est quoi après tout? C'est tout simplement une intonation, une articulation qui est propre aux habitants d'une région ou à un groupe social. Moi, par exemple, j'ai un accent parce que je parle comme les habitants du Québec, d'où je viens. J'ai un accent parce que ma langue s'est développée loin de ses origines et en plus au contact d'une autre langue, l'anglais.
Mais l'exotique, l'exotique, votre accent.
Il va, il vient. Ma façon de parler, ça fait partie de ma personnalité, au même titre que ma couleur de cheveux, ma couleur de peau ou ma taille. Alors, est-ce qu'une loi contre la discrimination par l'accent peut être efficace? Moi, je m'interroge déjà sur son application. Comment est-ce que je vais faire valoir que je suis discriminée à cause de mon accent? Ça ne sera pas évident. Mmh. Mais le débat qui s'annonce aura au moins l'avantage de ramener l'attention sur cette minorité audible, par opposition à la minorité visible, cette minorité qu'on n'entend pas dans les médias ou si peu. Mmh. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est récurrent, mais aujourd'hui, quelque chose a changé, Mohamed. Les langues se délient. La parole se libère. Merci Harvey Weinstein, merci MeToo, et vive la France des accents!
On écoutait donc Linda Giguère dans une émission de TV5 Monde en janvier 2020. Et donc, à chaud, petite réaction, Priscille.
Ça me fait penser, oui, justement, que c'est, enfin, qu'on est dans des stéréotypes, hein, des idées préconçues, que le langage repose sur une idéologie, finalement, qui n'accepte qu'une forme correcte, une seule forme correcte, c'est celle de l'élite, comme elle l'a dit, l'élite parisienne. Alors, ce qu'on dit souvent, l'accent de Paris, c'est sûrement pas l'accent des banlieues de Paris. Mm-hmm. C'est bien l'élite parisienne considérée supérieure, etc. Et ça me fait penser aussi, puisqu'on est à Tours, souvent on me dit « Ah, mais moi, je suis à Tours pour apprendre le français pur ». Le français pur. Ah. Donc, pour moi, qui dit pur, dit qu'il y a d'autres langues qui sont bâtardes.
Oui, les gens sont traversés par le nazisme sans le savoir, mais tout va bien.
Oui. La langue pure, oui.
Donc, je le dis quand vous dites ça, je le dis à nos auditeurs, auditrices, quand vous parlez de langue pure, attention, hein, pureté de la langue, pureté de la race, tout ça, bref, bon, c'est mal parti cette histoire.
Oui, même oui. Si, enfin, on a aussi des linguistes qui le disent, hein, donc...
Oui, c'est ce que je dis, tout le monde est susceptible d'être traversé par le racisme, je ne sais quoi, donc il faut faire un peu attention à ce qu'on dit quand même. Mais oui, tu as raison, c'est même pas d'ailleurs l'accent parisien, parce que l'accent parisien dans les années 60-70 c'était le Titi Parigot, et maintenant ça serait plutôt effectivement l'accent des banlieues, et quand on dit ça, ça veut rien dire, mais ce qu'on sous-entend généralement c'est l'accent en fait des afro-descendants, des maghrébins, de France. Donc il y a tout cet aspect-là. Alors moi, ce qui me frappe un petit peu dans ce billet, c'est que effectivement, alors déjà, il ne parle que de l'accent. Elle semble dire que une loi comme ça va servir à rien parce qu'elle n'est pas applicable. Je pense qu'une loi n'est pas applicable tant qu'elle n'est pas votée. De toute façon, c'est un argument qu'on entend souvent et on se rend compte après coup que quand une loi est votée, elle devient applicable quand même. Pas toujours facilement, mais elle devient applicable. Donc moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que... alors, je ne sais pas... Alors, c'est difficile de poser la question parce qu'elle admet qu'elle est québécoise vers la fin de son billet, mais en fait, elle se met à exagérer son accent québécois ou à reprendre, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, son accent québécois, et elle ne commente jamais le fait que, de toute évidence, elle fait ce qu'en anglais on appelle du code switching, c'est-à-dire que pendant 1 minute 30, elle parle avec un accent qui, je pense, aux oreilles les moins averties, voire même à des oreilles averties, passées. On n'était pas sûr d'entendre une québécoise. Il y a un moment donné, elle dit « visible ». Je crois, ça lui échappe à un moment donné ou sur un mot comme ça. Et en fait, ça, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette journaliste, elle est capable de parler un français presque décanadianisé et puis, tout d'un moment, de reprendre son accent. Je ne sais pas si elle le reprend ou pas. En fait, on ne sait pas. Et ça, c'est aussi le vrai sujet. Donc, je pense que là, on est sur une question vraiment d'intériorisation au sein des médias. Donc, Philippe Blanchet en parle pas mal dans son livre. Il parle de l'exemple d'acteur qui avait postulé pour le casting de Plus belle la vie et qui n'ont pas été pris parce qu'ils avaient un accent trop marseillais. Donc, c'est vrai que Plus belle la vie, que moi, j'ai rarement regardé, il y a très peu de personnes qui ont un accent du Provençal ou du Sud-Est dans cette série-là, qui pourtant se passe à Marseille. Donc, c'est quand même des questions intéressantes. Alors, est-ce que... Moi, peut-être que je suis trop critique, mais je trouve le fait que elle, alors c'est sur le mode de la rubrique un peu humoristique, c'est là où on ne sait pas très bien ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu une sorte de mélange des genres journalistiques. Est-ce que c'est une rubrique vraiment d'information ou est-ce que c'est un billet d'humeur ou d'humour? Mais je trouve le fait que quand on lui demande, quand l'autre journaliste lui demande le député de l'Hérault qui a déposé le projet, il doit avoir un accent du Sud, et elle dit effroyable, épouvantable, en rigolant. Et même si je peux comprendre que c'est peut-être ironique ou au second degré, bah néanmoins, elle est en train de dire de cet homme dont elle ne parle absolument pas par ailleurs qu'il se définit par son accent effroyable, épouvantable. Donc, je sais pas, je suis partagé sur cette vidéo là que j'ai découverte cette semaine. Je sais pas si tu.
Oui,
si
c'est un petit peu paradoxal en fait. Ça contredit un petit peu le message qu'elle veut faire passer en effet.
Sauf si, là je vais peut-être être un peu négatif, sauf si effectivement le message qu'elle veut faire passer c'est regardez moi, puisqu'elle fait entendre ses deux voix en quelque sorte, j'arrive bien à maquiller mon accent, donc tout le monde n'a qu'à faire pareil. Est-ce que c'est le projet de société qu'on a? Est-ce que c'est la société qu'on veut? Est-ce que tout le monde peut maquiller son accent? Non. Enfin, et on n'a pas, non seulement on n'a pas à le faire, mais ça n'est ni faisable ni souhaitable en fait.
Ou est-ce que ce serait inconscient de sa part?
Oui, je sais pas.
On ne peut pas savoir.
Ce qui est sûr, c'est que moi, je pourrais faire exactement la même chose qu'elle. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que mon accent, c'était pas mal estompé. Je pourrais tout d'un coup parler beaucoup plus comme je devais parler il y a 25 ans, mais je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai pas perdu mon accent parce que j'ai fait un effort délibéré pour le perdre. C'est que ça fait 30 ans que je vis plus dans le Sud-Ouest. Et c'est comme ça qu'il s'est un petit peu évanoui. Bref. Donc, ouais, je trouve tout ce passage un peu étrange quand même. Alors on a pas mal de réactions, j'avais pas du tout vu, on a pas mal de réactions sur Instagram qui viennent de un certain nombre de fidèles, Vaucan Lettres, Delphine Saint-Gall, donc ma sœur qui nous a aussi très gentiment mis au courant qui nous a réexpliqué pour l'affaire Naomi Moussenga. Et puis Louis Pichot aussi. Alors, j'ai une question d'ailleurs de Louis Pichot. Du coup, quand on évalue un niveau de langue, est-on nécessairement glottophobe? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, alors, je pense que la question, c'est. Je sais pas, enfin, à la rigueur, si on n'y répond pas correctement, la question peut être reformulée dans le chat, mais je pense que la question, c'est si effectivement je pense que, enfin, moi, la manière dont je comprends cette question, c'est si on exige d'une personne qu'elle n'emploie pas, par exemple, un niveau de langue familier dans un certain contexte, est-ce que c'est de la glottophobie? C'est compliqué comme question.
C'est compliqué comme question.
Moi, je dirais non, mais pour...
Je dirais, il s'agit déjà du contexte, parce que des évaluations de niveau de langue, on en fait tout le temps, toujours. Enfin, j'ai été enseignante, tu évalues aussi le niveau de tes étudiants en anglais, forcément. Donc, je dirais qu'il s'agit vraiment du contexte. Mais après, il faudrait, par exemple, dans un milieu professionnel, parfois... Oui, on est obligé d'évaluer le niveau de langue de la personne.
Je pense que la question, c'est peut-être aussi, pour prendre un exemple typique, l'entretien d'embauche, puisque la glottophobie, elle a pu être, contrairement à ce que dit la journaliste dont j'ai diffusé le billet tout à l'heure, les discriminations linguistiques, elles ont pu être notamment démontrées lors d'entretiens d'embauche. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui laisserait échapper une formule un peu trop familière, etc., est-ce que c'est un motif suffisant de disqualification en fonction du métier? J'ai envie de dire, si toi ou moi, on passe un entretien pour devenir professeur à l'université et qu'effectivement, on n'a pas l'air de faire la différence entre les contextes familiers, formels, etc., c'est peut-être un peu gênant. Il y a peut-être des métiers pour lesquels ça n'a aucune importance et où ça sert juste de justification pour ne pas prendre quelqu'un dont on ne veut pas. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi la question. Mais c'est intéressant parce que ça permet... Ça fait partie des cas dans lesquels on peut sortir la question de l'accent. Le niveau de langue ou le registre, c'est la syntaxe, c'est le vocabulaire, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure aussi. Ça peut être quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement, toujours parfaitement sensible au bon registre, qui va donc employer un terme familier sans savoir que c'est un terme familier. Et là encore, à moins de recruter quelqu'un pour être prof de français au lycée... qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, justement, je fais exprès de dire qu'est-ce qu'on s'en fout à la radio, tu vois. Enfin...
je pense que la personne, enfin je sais pas, la personne, j'essaye de comprendre un petit peu la question et de la reformuler. Peut-être qu'elle voulait dire, est-ce qu'on juge quelqu'un sur sa manière de parler? Je pense que c'est peut-être cela. Donc la manière de parler, c'est un petit peu notre carte de visite. Adopter la manière de parler qui est attendue, c'est dire, voilà, je suis de telle classe sociale, de tel milieu géographique, de telle communauté, et se présenter en fait par sa manière de parler. Je pense que c'est ce que voulait dire cette personne.
Ouais. Alors il y a une réaction aussi par rapport à cette question-là dans le chat. Là, c'est Vauc en lettres, Claire Tasté, pour ne pas la citer, qui a été aussi à ce micro, au même micro que toi il y a quelques temps, qui dit qu'en tant qu'enseignante, et Claire Tasté est professeure de français en lycée, elle dit que la notion de niveau de langue l'a toujours embêtée car elle a des limites floues. C'est-à-dire en fait, peut-être que ce n'est pas ce qu'elle veut dire, mais peut-être qu'effectivement, il y a certains collègues qui vont enlever des points à une copie de bac parce qu'ils considèrent telle ou telle tournure comme trop familière ou pas assez formelle, et d'autres pour qui ça va passer sans problème. Et donc là, on entre un peu dans le registre de l'arbitraire, du moins dans le registre du difficilement barémisable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi tel collègue... Se braque sur telle expression et pas telle autre.
Après, il y a aussi les écrits académiques, enfin, pour une note, enfin, un travail de lycée, de bac, du bac. Un certain type d'écrit qui est accepté, tout comme que lorsqu'on écrit une thèse aussi. Voilà, oui, c'est un niveau académique, on ne peut pas se permettre de...
Mais c'est vrai que moi, je suis le premier, moi, à dire à des étudiants de master ou même à des doctorants, doctorantes, ouais, non, là, cette formule, il faudrait mieux l'éviter, etc. Mais si c'est dans le document final, je ne vais pas évaluer uniquement sur ça, et même globalement pas sur ça. Même au niveau d'une thèse, c'est un critère, mais ça doit être un critère, à mon sens, un peu annexe. Je me rappelle, je crois, quand j'étais étudiant, je crois que c'est dans une copie de philo, où il y a une page de ma dissertation où la seule chose que le prof avait rayé, c'était, j'avais utilisé l'adverbe « foncièrement ». C'est trop familier. Bon, c'est vrai, effectivement, foncièrement, sauf quand on, dans son sens littéral de qui se rapporte au foncier, au droit du sol, c'est un peu familier. Mais enfin, je ne sais pas, il n'avait rien d'autre à dire sur ma copie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et j'avais pas une très bonne note, tu vois. Donc il y avait forcément plein de choses philosophiques complètement ratées dans cette page-là. Ok, dis-moi que j'ai rien compris à Hegel ou à Kant. Ok, parlons-en. Mais tu barres foncièrement, enfin, rétrospectivement, maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est les collègues qui lisent pas les copies.
Il n'avait rien d'autre à dire, hein, donc
oui,
il a dû...
il n'avait pas envie de le dire. Ça prenait moins de temps de barrer foncièrement et de mettre femme en, familier en face que de corriger le reste, quoi. Bref. On me signale aussi, alors ça c'est pas une vraie question, que le son de mon micro fluctue, je sais pas pourquoi, mais enfin le son de l'invité est très bon, c'est tout ce qui compte, parce que moi on m'entend assez de toute façon le reste du temps. Ok, on va faire une deuxième petite pause musicale. Cette fois-ci, on reste en Australie avec Midnight Oil tout à l'heure, Beds Are Burning, avec une chanson en anglais. Et puis là, je suis allé chercher une chanson d'une chanteuse aborigène du nord de l'Australie, Emily Woohamara. Et là, je pense que je n'écorche pas trop son nom. Ça va être un petit peu plus difficile pour le titre de la chanson, mais je vais essayer parce que ça fait partie des efforts que l'on doit en termes d'altérité linguistique. Il faut essayer de prononcer correctement les noms ou les langues, même que l'on ne parle pas. On ne doit pas. On a tous des exemples de ça aussi, hein, de personnalités publiques, d'officiels qui remettant la Légion d'honneur ou le prix Goncourt ou je ne sais quoi à quelqu'un dont le nom est. Et pas de chez nous, hein, tu vois, qui ne s'appelle pas Dupont ou Saint-Gall, l'écorche, ils ont l'air d'en avoir à peu près rien à faire. Ben non, c'est important de ne pas écorcher les noms. Alors, Emily Woohamara, c'est un album récent, tiré de son premier album, je crois, 2018 ou 2019, je n'ai pas renoté. Et ça s'appelle Ngarik Wujeyinama, et donc prononciation non garantie. Et vous allez entendre donc une chanson en Anindilyakwa, qui est une des 450 langues aborigènes encore survivantes, qui est une langue parlée par 1500 personnes. Oh, good langue, memena. Studio de Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est la première émission de la saison 2 de I Love Mes Cheveux. Nous sommes avec Priscille Atteuil et Lou Pichot nous a remercié de nos réponses. Donc on n'a pas dû être complètement... Soit c'est très gentil, soit on n'était pas complètement à côté de la plaque. Donc merci à toi Priscille. Et je voulais alors, histoire de alors, on va être toujours dans la question de la glottophobie, mais je voulais te poser une question, une seule question pour terminer cette émission, à partir d'un exemple particulièrement tragique, puisqu'on a cité le cas du syndrome méditerranéen de Naomi Musenga. Il y a un exemple historique qui a eu lieu en 1937 et dans lequel 30 000 environ haïtiens ou dominicains d'origine haïtienne ont été massacrés. Sous la présidence de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Là, je parle sous contrôle de l'ordinateur que j'ai face à moi et je tire notamment ce que je vais vous dire d'un article d'Arnaud Richard et Renaud Gauvin qui s'appelle « Chibolette, la langue comme arme de détection massive, 1937, le massacre des Haïtiens ». Et en fait, en quelques jours, 30 000 personnes ont été tuées par des soldats qui leur demandaient de prononcer un mot, le mot « persil » en espagnol, que je vais prononcer à ma façon, parce que je parle très mal espagnol, perejil, et les individus qui étaient considérés comme incapables de prononcer correctement ce terme, c'est-à-dire avec un R roulé suivi d'une rota, c'est-à-dire je pense que j'aurais mal fini, je pense, ce jour-là, c'était la mort à coups de machette ou de couteau. Et donc, voilà, je voulais t'interroger là-dessus, c'est-à-dire cette notion de chibolette. Est-ce qu'on a des exemples vraiment courants dans lesquels des tentatives de génocide, des massacres, des situations vraiment qui vont au-delà effectivement de la moquerie face à un journaliste, parce qu'on a parlé de Jean-Michel Apathy, où ça va bien au-delà et où effectivement ça rencontre l'histoire dans son caractère le plus sanglant ou le plus tragique.
Je me disais que, en effet, ce terme, s'il est récent, le terme de glottophobie, c'est un terme, c'est un néologisme, donc on l'a dit, qui date de quelques années. La discrimination linguistique, elle a toujours existé, hein, elle n'a pas d'âge. Hein. Et justement, le chibolette, ça fait référence à cette histoire de la Bible, cet épisode de la Bible, où seuls les Gileadites pouvait le prononcer correctement. Même, je ne suis pas sûre de bien le prononcer non plus. Les personnes qui n'étaient, enfin, dont ils n'étaient pas très sûrs, qui faisaient partie de leur communauté, elles demandaient à ces personnes, donc ils demandaient à ces personnes de prononcer le terme chibolette. Et s'ils le prononçaient avec le si plutôt que chi, c'était interprété comme ce sont des personnes qui ne font pas partie de notre communauté, de notre clan, et ces personnes étaient égorgées.
D'accord. Donc là, on en revient aux machettes et aux couteaux, malheureusement. Et donc là, on parle évidemment d'une histoire, parce que tu cites par rapport à l'origine du mot chibolette, c'est une histoire évidemment très ancienne, et on voit que malheureusement l'histoire se répète encore et encore. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a eu des choses similaires d'ailleurs au Rwanda aussi, il faudrait revérifier, je pense que c'était plutôt sur des questions d'apparence physique et même de pré-identification entre Hutu et Tutsi, qui savaient a priori qui était Hutu, qui était Tutsi, mais ça serait à revérifier. J'avoue que là-dessus, je crois pas avoir lu des choses sur le sujet. Donc voilà. Donc bah, écoute, merci pour le. J'avoue que je savais pas que le terme chibolette était le mot désignant cette pratique était lui-même le mot qui avait servi de test lors d'une des premières peut-être fixations historiques de ce phénomène. Et alors moi j'ai cité Haïti et Saint-Domingue en 1937. Peut-être le Rwanda. Est-ce qu'il y a d'autres exemples historiques contemporains? Je ne sais pas. Il se passe des choses
de génocide, pas à ma connaissance. Hein. Peut-être qu'il faudrait approfondir. En effet, c'est quelque chose.
De discrimination linguistique ou d'enfermement dans des communautés linguistiques liées à des. Je ne sais pas. En Ukraine, peut-être, non, je ne sais pas trop. Il y a peut-être des choses, non, qui se passent, je ne sais pas.
Enfin, là, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt, hein, je ne suis pas très sûre.
Je dis ça parce qu'il me semblait avoir lu effectivement des choses sur le fait que des russophones, quel que soit en fait l'avis que l'on a ensuite sur les événements historiques ou politiques, on a une invitée dans le studio, donc une apparition dans le studio, j'en perds mes mots. Bienvenue et bonjour. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il me semble avoir lu qu'il y avait dans les zones justement encore où l'Ukraine est souveraine, des personnes qui étaient jugées comme russophones ou qui parlaient russe ou qui parlaient pas ukrainien, avaient pu avoir des petits, voire des pas si petits problèmes que cela. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter dont on n'aurait pas parlé par rapport à la glottophobie, peut-être par rapport à la question des langues en dehors de la République, puisque Blanchet l'explique dans son livre, hein, un des points de départ de la glottophobie institutionnelle, c'est-à-dire en fait, et là on ne parle pas d'accent ou de vocabulaire, mais de la marginalisation, de la mise à l'écart, hein, c'est au-delà de la marginalisation, la mise à l'écart de toute autre langue que le français, ça remonte à la République, en fait, à la proclamation de la République, et le français comme langue de la République, ce sont des choses qu'on entend énormément de nos jours, c'est-à-dire être dans la République, être en dehors de la République, et effectivement, alors j'ai pas le temps de lire les pages en question, mais je m'étais noté, je vous le dis, si vous allez emprunter le livre de Philippe Blanchet, c'est dans les pages 110 à 112. Ce qui est intéressant en fait, c'est que, alors il y a la question des langues régionales, ça a servi à faire disparaître, il y a des langues régionales qui ont disparu, le normand, le berrichon, on nous explique qu'il est encore, si il existe, il y a des groupes qui... Mais enfin, c'est une survivance, c'est en grande partie folklorique, en fait. C'est des langues qui ont été exterminées, en vrai. Donc le breton, le gascon, le basque ont mieux résisté, mais enfin, pas tant que ça, quand même. Donc Je me demandais, en l'occurrence, par rapport à cette question-là, j'ai quelques exemples et je te demanderai de réagir à ça si tu veux. Quand un député, Jean Lassalle en l'occurrence, chante en gascon dans l'hémicycle, exemple que tu connais certainement, il se fait un petit peu foutre de lui pendant un petit moment. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a plein d'autres raisons de se foutre de lui, mais celle-là, je ne suis pas sûr. Il a une petite sanction et ça ne va pas plus loin. Si dans une émission de télévision, des invités commencent à échanger en anglais sans traduction ni sous-titrage, ça peut donner lieu à un signalement Arcom. Mais l'anglais, c'est valorisé, donc c'est pas bien de faire ça, mais ça ne vous situera pas en dehors de la République. Mais imaginons cela avec l'arabe dans la France de 2025. L'arabe est une langue d'une richesse, d'une complexité, d'une épaisseur culturelle énorme. Je suis presque scandalisé d'avoir à le préciser. Et incidemment, c'est la langue première ou seconde de millions de Français. Or, on comptait un petit peu moins de 20 000 élèves arabisants dans le secondaire pour 222 professeurs récemment, un chiffre très modeste par rapport aux 5,5 millions d'élèves du secondaire en France. Donc ici, je crois que la glottophobie recoupe d'autres discriminations liées au passé et surtout au présent, au passé colonial et colonialiste de la France. Évidemment, l'arabe est vécu comme une langue entièrement autre. Tu parlais d'altérité linguistique et d'insécurité linguistique. On trouvera beaucoup plus de personnes de nationalité française, dont l'arabe est la langue maternelle, et qui se sentent en insécurité linguistique que parmi des franco-américains bilingues en français et en anglais. Donc, je ne sais pas si tu voulais réagir aussi sur ce point-là pour qu'on n'oublie pas cette dimension fondamentale de la glottophobie, l'éviction des langues, d'autres langues et le statut républicain du français.
Je dirais encore une fois que ça rejoint ces idéologies liées à la langue. Comme tu le disais, même l'arabe qui est intrinsèquement lié à une culture très très riche sur plusieurs millénaires est stigmatisé. Et on oublie finalement qu'au même titre que nos passions, notre culture, le milieu d'origine, etc., la langue, elle fait partie de nous, de ce qu'on est, de nos attributs. L'accent, la langue qu'on parle, c'est notre marque de fabrique. Et Philippe Blanchet dit, c'est un attribut de la personne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Notre manière de parler, c'est quelque chose qu'on ne... Moi, je ne maîtrise pas forcément la manière dont je parle. Tu disais, toi, que tu pouvais retourner à l'accent que tu avais il y a plus
sais
jeune.
Pas, en fait. Enfin, je sais pas, en sûr. Fait. Non, je pense que non. Je pense qu'en fait, je suis capable de faire une caricature de mon accent. Mmh. C'est de toute façon pas spontané, donc c'est probablement faux, en fait.
Mais, rejoins là-dessus.
Comme la journaliste
aussi,
québécoise tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est capable de parler de manière plus évidemment québécoise. Mmh. Mais est-ce que c'est son accent, je ne sais pas.
Oui, après il faut le travailler. Enfin, moi, je me dis que c'est un vrai don que d'imiter différents accents. Rejoins là-dessus parce que, par exemple, lorsque je retourne à l'île Maurice, si je parle en créole, je sais que je parle créole avec un accent français. On se moque de moi maintenant. Donc, c'est un attribut. La manière de parler, c'est quelque chose... Enfin, donc, un attribut de la personne, quelque chose qui nous est propre. Et je ne sais plus c'était quoi la question,
C'était la mise à l'écart des langues et le fait que le français étant seule langue de la République, on est au-delà de la question de la langue officielle. Ce dont parle Philippe Blanchet, c'est que beaucoup de pays ont une langue officielle, beaucoup de pays ont plusieurs langues officielles. Le français a non seulement une langue officielle, mais qui est langue de la République. Ce qui veut dire que parler autre chose que le français rend soupçonnable de non-républicanisme, ce qui est très grave, en fait, au vu du discours politique global, en fait.
Alors, mais ça me fait penser, là, lorsque tu dis la langue de la République, on parle aussi des autres langues de France. Tu te souviens, c'est la DGL, délégation de la langue française et des langues de France, il me semble, la DGLF. Alef, j'ai plus l'acronyme exact.
Tu le sais mieux que moi, là, évidemment. Mais voilà, même si tu hésites, tu le sais mieux que moi.
Mais c'est un organisme vraiment qui est là justement pour soutenir la langue française et les autres langues de France. Et ça me fait penser donc à cela, ce dont tu viens de dire. Et lorsque tu as parlé de Lassalle, finalement, enfin, je pense qu'il est fier de ce qu'il est, être fier de sa manière de parler, de qui l'on est, et le revendiquer, puisque, comme on le disait, notre manière de parler fait partie de notre identité. Et c'est une richesse, on en a parlé justement, grandir dans un pays monolingue, être monolingue, c'est bien, mais parler plusieurs langues, c'est mieux. Donc, revendiquer ces langues de France, puisque c'est ce qui a forgé le territoire français, finalement. Les langues de France, le terroir. Et souvent, on a tendance aussi à confondre enfin à oublier plutôt que la langue, elle est liée à la culture. Les langues qui disparaissent, le breton qui disparaît, enfin le breton, peut-être pas le breton, mais d'autres langues qui, régionales qui disparaissent, c'est aussi la disparition de cette culture. Ça, je pense qu'il est important de le préciser. Oublier les langues régionales en France, c'est aussi tout un pan de culturel qui s'oublie. Ça, je pense que c'est très, très important de le préciser. Et ça me fait penser aussi à la situation qu'on vit en ce moment, la guerre en Europe, la guerre donc en Ukraine. La haine de la culture, de cette culture ukrainienne de la part des Russes, c'est aussi une haine de la langue, finalement. Et on pense aussi, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais que la langue, elle subira
en tout cas, la
des conséquences de cette
en tout
guerre.
Cas, la souveraineté ukrainienne, elle passe beaucoup par la mise en avant de la langue, par distinction du russe. Ça, c'est certain en termes de propagande contre propagande, je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà. Eh bien, merci beaucoup, et je veux juste rappeler aussi ce qui va de soi pour nous, mais qui est quand on parle de langue minorisée, c'est pour ne pas parler de langue rare ou de langue mineure, c'est-à-dire minorisée, on est toujours dans une situation politique, ça veut dire qu'aucune langue n'est en soi rare ou mineure. On pourrait dire de la langue aborigène, dont j'ai diffusé une chanson tout à l'heure, qu'avec 1500 personnes ou locuteurs, elle est effectivement rare. Ça, je pense que sur des questions d'échelle, on pourrait être d'accord. Mais je veux rappeler que parfois, il arrive que des personnes désignent le Wolof comme une langue rare, alors que ça ne leur viendrait pas à l'idée pour le néerlandais. Or, si on regarde le nombre de locuteurs de Wolof et le nombre de locuteurs du néerlandais, il n'y a pas photo, même en comptant la Belgique.
Et juste pour terminer aussi, Guillaume, je dirais que les glottophobes, donc les personnes qui pratiquent la glottophobie, elles ont rarement conscience de la portée de leur moquerie. Puisque rejeter un accent, comme on l'a dit, c'est aussi rejeter une origine sociale, une origine géographique, une origine communautaire, et c'est une discrimination. Donc je pense que ça le mérite d'être dit, d'être connu et d'être réprimé.
Voilà, prendre conscience de cette discrimination, et j'espère que cette émission de radio, avec son audience massive, permettra de faire un petit peu mieux comprendre et connaître ces questions-là. Et avant de nous quitter, je veux juste prendre 2 minutes, et c'était pas tout à fait prévu, je suis allé chercher ça sur mes étagères ce matin, j'ai appris hier soir, et ça m'a pas mal affecté, la mort d'un poète et traducteur français qui a été en résidence à l'université de Tours en 2014-2015. Il s'agit de Stéphane Bouquet. J'avais eu l'occasion de travailler avec lui, il était intervenu dans mes cours, donc j'aimerais avoir une pensée vraiment particulièrement profonde pour Stéphane et pour ses proches aujourd'hui. Moi, je n'en sais pas plus, je ne faisais pas partie de ses intimes, mais j'ai travaillé avec lui, j'ai lu ses livres, et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Stéphane Bouquet. Je vais vous lire, non pas un de ses poèmes, mais la traduction d'un poème de James Schuyler qu'il avait publié chez Joca Seria il y a une dizaine d'années, en 2014. Le vent déchire le soleil et le répand dans la neige. Le ciel sourit et de sa bouche tombe libérée une dent de lait qui d'elle-même glisse sous l'oreiller d'un nuage. La petite souris sait où chercher et quand mettre sous clé les feuilles depuis longtemps entassées et délaissées. Je pars dans le sud. Pas maintenant, même si cette drôle de pluie d'hiver duvetée descend sans férir et couvre l'herbe de blanc et de sec, un shampoing de maïzena, emmêlé, démêlé. Plus facile à dire qu'à faire. Les choses prennent le temps qu'elles prennent, les feuilles s'enfuient. L'hiver et ses flocons, pas moins, même si plus brièvement, vécu. C'était une traduction d'un poème de James Schuyler par Stéphane Bouquet, qui nous a quittés la semaine dernière. Et nous allons désormais nous dire au revoir, et je suis allé par répétition de la petite provocation du 10 mars dernier, je suis allé rechercher le générique de fin que tu nous avais proposé le 10 mars. Si ça... Ouais. Ah.
Mais comment ça, demandez t'y paix, tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais, je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire, d'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja, j'suis pas ta cata. Genre, en katana baby tu dead ça. Oh dja dja, y'a pas moyen dja dja, j'suis pas ta katana dja dja. Genre, en katana baby tu dead ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent, j'suis pas ta daronne.
Merci d'avoir écouté I Love Les Cheveux. Merci à toi, Priscille, Priscille Atoy, pour ta participation. On a nettement mieux circonscrit ces questions de glottophobie, de discrimination linguistique. Et on se quitte avec Aya Nakamura.
Merci, Guillaume.
Merci à toi encore. Et tu reviens, on peut faire ce qu'on avait dit, tous les 4 ou 5 mois.
Avec plaisir.
Il y a de la matière. Pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission, le compte Insta est là, ILMC 2025. ILMC 2025. Je crois que ça a un peu interféré avec Jaja, je crois. Et on se retrouve le 8 septembre et on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM. Je suis pas ta gata, Jaja, genre en Katana, baby, tu dettes ça. Oh, Jaja, je suis pas ta gata, Jaja, non. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. En Katana, baby, tu dettes ça. Oh, Jaja, je suis pas ta gata, Jaja, non. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. En Katana, baby, tu dettes ça, d'après toi. En Katana, baby, tu dettes ça. En Katana, baby. On got on a baby to the top. On got on a baby. Oh.